Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Notre parcours sur le péché originel nous a fait nous concentrer tout à l'heure, du point de vue des Écritures en tout cas, sur la lettre aux Romains. Mais évidemment, quand on pense péché originel, quand même, on revient, on a ce passage de Adam et Ève, le péché au jardin des origines, même si la théologie oblige de passer par ce que saint Paul nous a aidé à comprendre. Dans le chapitre 3, donc ce récit de la chute, qui nous parle de ce péché originel, il y a quelque chose qui peut gêner parfois, cette idée que, cette impression qu'à cause du péché, Dieu aurait donné une punition, aurait donné la mort à l'homme, l'aurait rendu mortel. Or, ce n'est pas exactement ça que dit le texte, c'est comme s'il y avait eu un avertissement. Si tu manges du fruit de cet arbre, tu connaîtras la mort. On ne l'entend pas, me semble-t-il, comme une punition. Tu seras puni de mort parce que tu auras mangé de fruits de cet arbre, mais il y a des conséquences à un acte que l'on pose librement, si j'entends bien ce passage. Et j'allais dire, de fait, dans chapitre 3 donc, de ce livre de la Genèse, il y a ce passage où on voit l'affirmation de la victoire au-delà du péché qui a été accompli, ce que le catéchisme nous rappelle, on appelle cela le protévangile. Donc déjà l'annonce de la victoire du Christ sur la mort. Dieu ne veut pas la mort. Dieu, comme le titre, le catéchisme sur la section que nous allons regarder là maintenant, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. C'est une erreur de dire que Dieu n'a pas puni l'homme de la mort, ou voilà, comment entendre ça?
Oui, alors le langage de la punition doit bien sûr se prendre avec, je dirais, la lumière de la foi, et comprendre bien qu'il y a la faute et il y a la peine. Dieu, en aidant à Adam et Ève à avoir une conscience lucide, doit non seulement comprendre ce qu'est la faute, et la faute c'était vouloir prendre la place de Dieu, et s'auto-déifier par leur propre force, comme fait Satan dans sa tentation à vouloir s'ériger par eux-mêmes dans cette participation à la vie divine, et Dieu annonce immédiatement les conséquences de la faute. Et c'est la peine. Et il est non pas. C'est une question de justice, ce n'est pas une question de quelqu'un qui voudrait exercer son potentat, en quelque sorte, par des punitions qui seraient des coups de règle, comme un mauvais maître qui n'arrive pas à bien transmettre sa matière et qui donne des coups de règle sur des enfants qui n'apprennent pas assez bien selon sa vision des choses, alors que peut-être c'est un mauvais professeur. Et Dieu est évidemment un bon maître.
Oui.
Et Dieu donne à la fois le lieu possible de la faute et il explique immédiatement quelles seront les peines conséquentes. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Alors Adam et Ève sont tombés et ils ont inévitablement été soumis, comme dit le passage du Concile de Trente, ils ont été soumis à la servitude sous le pouvoir de celui qui possédait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Ils ont eu cela comme conséquence. Mais il est vrai que immédiatement Dieu a proposé en quelque sorte le plan B. Le plan A ayant échoué, Adam aurait pu ne pas pécher, mais il a péché, et à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu annonce dans Genèse chapitre 3, dans ce passage où il condamne le démon en lui disant « Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. » Et il ajoute ce passage très lumineux pour nous, 3, donc 15, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Et il y a donc la certitude dans ces paroles lumineuses que la victoire, finalement, pourra avoir lieu. Et il y a déjà dans ce protévangile, dans ce lignage de la femme qui est annoncé, eh bien, l'espérance d'un Messie, l'espérance de celui qui va pouvoir, d'une certaine manière, rétablir toute chose, récapituler toute chose par rapport au plan d'origine. Nous avons cette attente, on parle de l'espérance d'Israël dans Actes 28-20, où celui qui doit venir dans Luc 7-19, eh bien, c'était le Messie. Le Messie, on l'attendait à cause de ce protévangile. On savait que la victoire pouvait arriver, que Dieu n'abandonnait pas sa créature à cette situation de son péché, dans les peines conséquentes qu'il avait lui-même, d'une certaine manière, provoquées. L'homme était libre à l'origine, et il a péché, il subit les conséquences du péché, mais Dieu ne le laisse pas choir, en quelque sorte. Il lui tend la main. On voit souvent dans les icônes, d'ailleurs, quelque chose de très beau en Orient, on voit la main du Père qui descend du haut de l'icône. C'est très beau. Mmh. Et on voit cette main qui descend, une main toujours secourable.
Mais oui.
Dieu est toujours là pour récupérer sa petite création, son bout d'homme, pour essayer de le relever, pour le redresser. Et c'est Jésus qui est loin, qui est le Messie, qui va venir avec cette grande et extraordinaire façon de faire de Dieu, qui est comme le cachet de Dieu, un peu comme un artiste, quand on reconnaît quelqu'un à son cachet, à sa façon de faire, c'est que Dieu, quand il répare, il fait mieux que ce qui était le plan A d'origine. Le plan B va être encore plus beau. Et ça, c'est une chose tout à fait stupéfiante. C'est-à-dire que Dieu peut, dans la misère de l'homme, provoquer quelque chose de plus beau encore. C'est la fameuse parole de saint Paul qui fait que quand le péché a abondé, la grâce a
surabondé.
Et ça, c'est assez extraordinaire, une surabondance de grâce. Et le numéro 412 du catéchisme de l'Église catholique le dit très bien, que rien ne s'oppose à ce que la nature humaine ait été destinée à une fin plus haute après le péché. Dieu permet en effet que les maux se fassent pour en tirer un plus grand bien, d'où le mot de saint Paul, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5:20. C'est un très très beau passage.
Et l'article termine avec cette magnifique phrase de la liturgie. Heureuse faute qui a mérité un tel et si grand rédempteur dans l'exultet qui est dans la vigile pascale,
voilà,
le cœur de notre foi.
Voilà, ô Félix culpa, heureuse faute. Alors il faut faire attention, ça ne veut pas dire qu'on légitime encore une fois la faute en disant allons-y gaiement, puisque la faute est bonne. Le mot faute ici doit se comprendre comme étant par hypallage. Qu'est-ce que c'est qu'un hypallage? C'est-à-dire on dit une expression qui synthétise plusieurs mots, c'est-à-dire ô heureux Adam pécheur qui a mérité un tel et si grand rédempteur. Il faut faire attention, c'est pas la faute qui serait tout à coup mis en avant en disant dans le fond toutes les fautes sont bonnes, etiam peccata. Non, ô heureuse, heureux Adam qui a commis la faute. C'est Adam qui est heureux parce que cela lui a occasionné un si grand et beau rédempteur qui est notre Seigneur Jésus-Christ et qui viendra donc avec, après tous ces siècles, où l'homme devra, d'une certaine manière, essayer de s'en sortir avec la loi, mais la loi est essentiellement un moyen de perfectionner notre conscience, c'est-à-dire elle vient nous mettre en face de notre péché, et petit à petit, eh bien, cela met l'homme dans la considération qu'il ne peut pas par lui-même s'en tirer. Il lui faut un sauveur. Et ça, c'est ce moment si fort que le Nouveau Testament vient apporter. La loi était bonne à tous égards, dira saint Paul, mais elle est essentiellement accusatrice, c'est-à-dire elle nous montre où est le péché, parce que l'homme n'y arrive pas. Mais elle donne une lumière sur le bien et le mal. Donc elle est très utile, mais il a fallu d'abord, comme des siècles de constatation que l'homme n'y arrivait pas par ses forces, pour que le Sauveur vienne enfin et assume cette vérité que c'est Dieu seul qui nous sauve.
La question sera, du point de vue spirituel en tout cas, est-ce que nous nous réjouirons d'avoir un sauveur, donc de dépendre du salut donné par un autre, qui est Dieu, ou est-ce que nous allons vivre cela comme une sorte de telle insuffisance de notre part que nous vivrons dans la tristesse et finalement un désir de prendre de ne pas laisser de place à celui qui sauve, quoi.
Et de fait, il peut y avoir une tentation d'amertume.
L'amertume
qui est si bien caractérisée dans l'Épître aux Hébreux, à la fin de l'Épître aux Hébreux. « Veillant à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine amère ne pousse des rejetons et ne cause du trouble, ce qui contaminerait toute la masse. »
Merci, frère Édouard.